Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the Internet at CIUT.FM or live from our studio. Potpourri Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands. And features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Potpourri Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. In partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.purri@simpatico.ca.
Les Archives d'Afrique, à la Foka.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires. Et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie, mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre pour faire changer les choses.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
Ça va être fantastique encore. Alors, réchauffons-nous cœur en sortant pour le mois de février 2020, ici et maintenant.
Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Le grand jour tant souhaité est enfin arrivé. R.I.
Ici, tout là-bas.
Voir d'autres êtres humains.
Ailleurs.
Ni plus ni moins.
RFI.
RFI.
On en fait tout un monde.
Et oui, bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à Popori Show, où que vous soyez à travers la planète. J'espère que vous êtes sur une plage comme nous. Et oui, c'est une émission un peu spéciale aujourd'hui. Dans le cadre des célébrations du mois de l'histoire des Noirs, l'ingénieur du son DJ Devera, animation et production Eric Adair. Vous pouvez nous écouter jusqu'à 13h sur www.cut.fm. On vous apporte beaucoup de chaleur, de soleil, mais aussi des cadeaux des tropiques jusqu'à 13h. Une émission spéciale présentée en collaboration, en partenariat avec Dr Amadou Ba, historien au Nipissing University. C'est à North Bay, en Ontario, au Canada. Et il est l'auteur d'un nouveau livre, L'histoire oubliée de la contribution des esclaves et des soldats noirs à l'édification du Canada. Remettre les esclaves noirs à leur juste place au cœur de l'histoire canadienne. C'est le combat de notre invité. Il est quelque part dans une voiture entre deux aéroports, deux pays, alors on verra bien si ça fonctionne. André Venor, il est directeur de développement et des opérations de la Fondation Sylvanie Lindor, qui présentera la programmation du prochain forum « Parlons d'entrepreneuriat et du e-commerce et de leadership » à la séance de Mathieu Dacosta le 22 février prochain à Toronto. Il représente bien sûr la Fondation Sylvanie Lindor, à qui nous disons bien le bonjour. Benoît Songa, qui est-il? Un ingénieur et gestionnaire chez le centre RIRE, R-I-R-E. Il est membre du comité du mois de l'histoire des Noirs à Québec, un homme très engagé dans la lutte contre le racisme et toute forme de discrimination dans la région du Québec. Je vous rappelle, vous pouvez aller sur le site de l'histoire des Noirs à Québec qui se déroule jusqu'au 29 février 2020. Le club d'étudiants de l'Université de Toronto, c'est le campus de Mississauga et ils s'envolent, ils vont voguer, ils vont peut-être découvrir une très belle histoire dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs à Montréal. C'est ce mois-ci, on en parle avec professeur Carole Lebrec, collaboratrice à cette émission. Il y a aussi des bons plans qui se déroulent tout au long de l'année, tout le long de ce mois, mais aussi peut-être de l'année. Ici, on parle de l'histoire des Noirs tout au long de l'année. C'est pas seulement le mois de février, le mois le plus court. Eh oui, si cela vous intéresse, vous êtes dans la région de la capitale fédérale, c'est-à-dire Ottawa, pas loin de Gatineau, Québec. Une histoire à raconter, c'est la 18e édition du mois de l'histoire des Noirs de Gatineau qui s'inscrit dans le devoir de mémoire en offrant un grand éducatif, un regard éducatif sur l'histoire. Et cette histoire qui est bien souvent, malheureusement, ignorée, méconnue, mais qui demeure bien vivante. Allez sur le site www.mhn-gatineau.com. Et du 12 au 17 février 2020, le cinéma africain est à l'honneur avec en vedette, tenez-vous bien, madame, monsieur, le réalisateur Spike Lee. Eh oui, Spike Lee. You know that man, n'est-ce pas? Il est le président du jury du Festival de Cannes. Oh, Spike Lee is the president of Cannes Festival. Est-ce qu'il parle français? Does he speak French? Do you need to be black and speak French to be the president of Cannes Festival? Je regarde mon ami de l'autre côté. What do you think? Can this be real? Is this true? Will he be even get there to the festival? Beaucoup de débats, hein? Lots of debates, lots of francophones, especially the French. How come a black man from America be the president of the Cannes Festival? Comment ça se fait? Never heard. Anyway, si cela vous intéresse, Spike Lee will be in Toronto dans le cadre de la Toronto Black Film Festival. C'est présenté par la TD Bank du 12 au 17 février en collaboration, in collaboration, partnership with Global News. Et Spike Lee will receive a TBFF, Toronto Black Festival, Film Festival, Lifetime Achievement Award. Wow! Eh oui! And there will be, of course, plus de 75 films from 20 countries. All access passes and individual tickets are on sale now. Who knows? If you listen to the show, you might get some free passes. Eh oui.
Le Will you go there to the Toronto Black Film Festival? Are you part of it? Yes. You should be on the show. Talk to us, please. Ok, mesdames, messieurs, cela me fait plaisir pour tous nos amis, tous nos collaborateurs qui nous ont envoyé. Ah oui, il y a eu aussi des témoignages assez poignants de la part d'une ex-directrice d'école. Elle est d'ascendance africaine et elle a vécu des choses vraiment pas très 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 jolies hein, au sein du corps des enseignants en Ontario, et elle a décidé de monter un blog et nous allons vous dévoiler ce qu'elle a vécu pendant des années et des années, ce qu'elle a vu, ce qu'elle a entendu au sein des écoles de langue française en Ontario. Je ne raconte pas d'histoire, elle est à la retraite aujourd'hui. Il y a aussi une autre personne qui nous a écrit, va-t'en en Afrique, ici c'est le Canada. Eh oui, ils sont francophones originaires d'Afrique, de l'Ouest et du Centre, mais aussi des Antilles. À leurs conditions de vie misérables au Québec ou en Ontario s'ajoute la violence quotidienne. Ils se barricadent et vivent la peur au ventre. Ce n'est pas facile de vivre ici, nous a dit un témoin. La discrimination raciale et le harcèlement sont monnaie courante dans certaines institutions francophones, selon certains témoins. Et tout au long du mois de février, nous vous invitons à découvrir ces témoignages chocs, poignants, le calvaire de certains francophones d'ascendance africaine. À l'antenne, ici, 89,5 FM, Toronto. Popourri Show, l'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde, 33 ans déjà, CUTFM, la radio comme je l'aime.
Thank you.
Merci. Ok, là je vais vous faire découvrir une petite... Ah oui, c'est vraiment formidable. Have you ever heard of Angélique Kidjo? Do you know Angélique Kidjo? Qui est Angélique Kidjo? C'est la grande ambassadrice, eh oui. Et je pense qu'elle a travaillé à l'ONU, elle est née au Bénin, elle est venue à Toronto d'ailleurs à plusieurs reprises. Et elle a une nouvelle complice, madame, monsieur, et dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, je vous offre un cadeau. Vous allez voir, elle est formidable. Sa complice, c'est Yemi Eleberichi Alade. Elle est née en 1989 et est une chanteuse pop afro et actrice nigériane. Comme beaucoup d'artistes nigériens, Yemi Alade a été mordue par le chant et la danse dès le bas âge et a commencé à chanter dans une chorale d'église à 12 ans. On la surnomme la fille Yoruba Ibo. Allusion à ses origines bitribales. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, Chekeri, Yemi Alade en duo avec Angélique Kidjo, la chanson qui fait sensation actuelle. Bon mois de l'histoire des Noirs.
People on light, I'm burning, no. Dancing against there is a
Nous avons des soldats du micro qui sont en studio. Nous allons les recevoir. C'est bien sûr le Reflex qui est là aussi et surtout CTN All Stars. Alors, je vous donne, nous allons t'écouter justement en featuring avec Fali. C'est au bout de la route. Et écoutez, quelqu'un qui a des accents très européens dire des choses très africaines, j'allais dire très béninoises, au sujet de Ouida. C'était Glerwe, nous, ouvre tes oreilles.
Hommage à tous les Glerwe Vidjidji, voilà.
Yes, tranquille. Écoute, c'est Yovo Dounoï Fadi. Ah, c'est du slam sensé. Bon.
Mois de l'histoire des Noirs à 2020. Une histoire à raconter. Mais quelle histoire? Tout au long du mois de février 2020, Popori Show et CUT 89,5 FM vous invitent à découvrir les talents, les héros, les artistes, poètes, historiens, les voix des sans-voix de la diaspora africaine et antillaise de Toronto et du reste du Canada. Tout au long du mois de février 2020, CUT FM vous invite à participer aux nombreuses célébrations dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs au Canada. Au cours des quatre derniers siècles, les personnes d'ascendance africaine et caribéenne ont façonné leur propre identité au Canada tout en apportant d'importantes contributions à la société canadienne. Mais comment se fait-il? Comment expliquer aux jeunes qu'au sein de la francophonie canadienne, le train de l'histoire a raté sa destination en termes d'équité et d'égalité pour les personnes d'ascendance africaine ou antillaise? Mois de l'histoire des Noirs, 2020, une histoire à raconter. Un mois où nous rendons hommage à nos propres héros et amis de la radio. Ici, je pense au professeur Frédéric Case qui nous a quittés trop tôt. Il était le cofondateur de notre émission, premier directeur noir au département d'études françaises et New College, Université de Toronto, grand défenseur de la diversité et de l'équité, fondateur du cinéma africain. Docteur Gérard Bastien, consul honoraire du Sénégal, dentiste, grand mélomane et mécène pour les arts, la culture et les moins privilégiés. Il était un membre actif de notre émission, parti hélas trop tôt. Docteur et juge Juanita Westmoreland Traoré, première femme noire à la tête de la Commission de l'équité en matière d'emploi et de l'Ontario. Eddie Bouraoui, professeur émérite à l'Université York, Ontario, membre de l'Académie des lettres et des sciences humaines, de la Société royale du Canada, écrivain, poète, membre de l'Ordre du Canada, membre de la radio depuis plus de 30 ans. Ils ont tous une histoire à raconter. Et vous, quelle est votre histoire? Merci à toutes les personnes qui ont partagé des témoignages poignants sur leur propre expérience en tant que personne d'ascendance africaine. Jusqu'au 23 février, Popori Show vous donne rendez-vous sur CUT 89,5 FM, la radio comme je l'aime. Êtes-vous un fournisseur de services? Faites-vous partie de la communauté francophone? Connaissez-vous vos droits pour recevoir des soins de santé en français? Qu'est-ce que l'offre active en santé? Alors, Reflet Salvéo, l'organisme à but non lucratif, est là pour vous accompagner dans votre démarche pour trouver des soins et bons services en santé. Reflet Salvéo est chargé d'engager la communauté francophone dans son système de santé, mais également de conseiller les réseaux locaux d'intégration des services de santé sur leur politique de service. Connaissez-vous les slogans de Reflet Salvéo? Compétence, écoute, engagement, solidarité. Reflet Salvéo, le reflet des besoins en santé pour les francophones de la région. Que vous soyez immigrant, femme, jeune, personnes âgées ou personnes ayant un handicap, ou vivant avec le VIH, Reflet Salvéo prend en compte vos besoins dans son plan d'action. Découvrez toutes les thématiques, les projets et les offres d'emploi disponibles en ce moment chez Reflet Salvéo en visitant le site web www.reflet-salvéo.ca. Faites comme Christopher, devenez membre et prenez votre santé en main. Communauté informée, communauté en santé, ça commence chez Reflet Salvéo.
Depuis le tout début de l'histoire du Canada, les personnes d'origine africaine ont fait d'importantes contributions au développement de notre grand pays. Le 2e bataillon de construction, composé exclusivement de soldats noirs, a fièrement servi le Canada au cours de la Première Guerre mondiale. Célébrons notre fier patrimoine. Célébrons le mois de l'histoire des Noirs.
Chaque année en février, le Canada célèbre le mois de l'histoire des Noirs et durant cette période, des festivités sont organisées pour souligner la contribution des Canadiens noirs. Parfois, certains événements sont d'ordre purement folklorique. Dans certains cas, les messieurs, dames de la francophonie organisent une petite fête pour se donner bonne conscience. Mais peut-on en faire plus ? Pour notre premier invité, qui est aussi... patron, le grand patron, enfin cette émission ne peut passer sous son patronage, il est ambassadeur du réseau patrimoine afro-ontarien, professeur, chercheur, historien, auteur du livre « L'histoire oubliée de la contribution des esclaves et soldats noirs à l'édification du Canada » publié en 2019 aux éditions Africana, qu'on peut d'ailleurs commander sur Amazon. Le Canada doit faire plus alors que certains gros calibres de la francophonie se sont fait montrer la porte, eh oui, carrément, en évoquant cette question. Lui, il va plus loin, c'est-à-dire, il faut enseigner l'histoire des Noirs dans les écoles, tout comme on le fait pour l'histoire autochtone et européenne. Mesdames, messieurs, j'ai le grand plaisir d'accueillir notre parrain de l'émission, tout au long d'ailleurs de ce mois de février, si cela est possible, le mois de l'histoire des Noirs, 2020 avec docteur et professeur Amadou Ba. Il est professeur, je vous rappelle, historien au Nipissing University. Il est avec nous en ce moment. Professeur Amadou Ba, bonjour.
Oui, bonjour. Comment ça va?
Oui, j'espère que vous pouvez nous parler. Je sais que vous êtes quelque part dans une voiture. On vous voit partout à la télévision, à TV5, à Radio-Canada. Mais pourquoi Vous avez décidé, en tant que Sénégalais d'origine, vous êtes un immigrant canadien, ça fait pas très longtemps que vous êtes ici, vous décidez de réécrire l'histoire canadienne. C'est la grande question que je reçois constamment de mes collègues québécois et franco-ontariens. Pourquoi a-t-il décidé de réécrire l'histoire du Canada?
Oui, donc, bonjour à tout le monde. Mon livre, en fait, est une suite de mes recherches de thèse. J'ai travaillé sur la question des soldats ouest africains dans les armées coloniales françaises en l'expédition de Madagascar. Donc, une fois au Canada, donc, je voulais aussi voir ce qui se passait du côté de l'empire colonial britannique.
Oui.
Et ça m'a conduit donc à faire des recherches. Et puis, je me suis aperçu qu'il y avait la question de l'esclavage et que l'immigration des Noirs au Canada est très ancienne. Elle remonte pratiquement au début de la colonie, en même temps que les Français. Donc, j'ai fait un livre pour retracer toute cette histoire qui n'est pas très connue du tout, qui devrait l'être parce que les Noirs sont là quand même depuis 400 ans.
Alors, vous savez que c'est la première fois que cela me coûte une fortune d'avoir, parce que j'étais en tournée dans les Antilles, il y a une bienfaitrice qui nous a envoyé le livre par UPS, imaginez. Donc, j'étais sur la plage et puis je lisais, c'est vrai, vrai bonheur, votre livre. Et dans la partie 1, on voit les Noirs au Canada, une migration ancienne et continue, esclaves, loyalistes, réfugiés, fugitifs et migrants économiques. Ça, ce sont des histoires ou des thèmes que le peuple canadien, y compris nos amis francophones, n'ont pas toujours entendu parler dans le passé.
Oui, absolument. Donc, c'est, comme j'ai dit, hein, c'est un livre qui retrace toutes les migrations, dès le début jusqu'à... Mais je m'arrête à 1945, je ne parle pas de d'autres migrations.
Parce que vous savez pourquoi je soulève cette question ? Souvent, quand je parle avec des gens, y compris des gens, des fonctionnaires, hein, qui sont censés de tailler des politiques d'immigration, d'intégration pour les nouveaux immigrants, ils parlent toujours d'une immigration récente, ou au plus 40 ans. Alors que les Noirs, y compris des francophones, ils étaient ici pendant des siècles.
Oui, justement, c'est ça que je voulais dire. En fait, il y a des histoires qui sont popularisées et il y a d'autres qui ne sont pas du tout. Pour ce qui est donc l'histoire des Noirs, on a voulu populariser l'immigration dans les Trente Glorieuses, l'immigration économique, quand on faisait venir beaucoup de Caraïbiens, mm-hmm. des femmes domestiques, et aussi un peu l'immigration via le multiculturalisme du Canada. Donc, ça, mais l'histoire, la vraie histoire ancienne, depuis 400 ans, l'esclavage et tout ça, c'est pas du tout, du tout connu. Donc, c'est très important aussi de revenir sur ces histoires et de montrer finalement que il y a beaucoup de Noirs qui sont des Canadiens depuis des générations, totalement différents des dernières vagues d'immigration, comme moi par exemple, qui suis là il y a seulement 10 ans. Donc, mais ceux qui sont là depuis 400 ans, 300, 350, et descendants des loyalistes, etc., tous ces gens-là.
Vous savez, quand on a commencé cette émission il y a 33 ans de cela, on avait le bonheur de recevoir beaucoup, beaucoup d'immigrants, y compris des gens d'Haïti et de Jamaïque, d'autres pays des Antilles. Il y avait Cheryl Robb, qui parle un peu français, mais qui voulait absolument travailler avec nous, un groupe de francophones à la radio à l'Université de Toronto. Et à chaque fois, les gens le voyaient parmi nous. T'es noir, métissé. Et puis, ils disaient, ça fait combien de temps vous êtes arrivé ici? Or, elle était la quatrième génération Nouvelle-Écosse. Hein? Ses parents sont de la Nouvelle-Écosse. Et là encore, les gens sont très, 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 enfin, connaissent très mal l'histoire de ce pays. Alors, il y a un côté francophone que j'aimerais attirer l'attention parce qu'il va y avoir un groupe d'étudiants francophones du campus de Mississauga, l'Université de Toronto, campus Mississauga. Ils vont aller découvrir la petite histoire et surtout l'histoire des Noirs à Montréal dans quelques jours. À la page 56, vous parlez de Marie-Joseph Angélique, le refus de la soumission. Ça, c'est une figure que les francophones connaissent encore très mal, surtout les franco-ontariens.
Oui. Marie-Joseph Angélique symbolise déjà plusieurs choses. La première chose, c'est que l'existence réelle de l'esclavage en Nouvelle-France. Mm-hmm. Et puis l'autre chose aussi, c'est que c'est une femme qui a refusé la soumission et qui a préféré toutes les humiliations, les souffrances, la mort même, que le fait d'être esclave. Donc elle a vécu au Québec, à Montréal. Et puis son histoire, donc, je le retrace dans mon livre, comme beaucoup d'autres cas aussi. Et c'est très important, parce que cette femme, elle a inspiré beaucoup d'autres femmes dans la communauté. Même notre voyant Bella Desmond, hein, qui est dans le billet de 10 $, ou si je parle de l'exemple en Ontario avec Chloé Cooley, qui était une femme forte résistante, ou bien Harriet Tubman, tous ces gens-là. Donc, je pense qu'elles sont inspirées de Marie-Joseph Angélique, qui sont refus, justement.
Alors, pour parler un peu d'un personnage mythique dans l'histoire du Canada, ce monsieur Mathieu Dacosta, comme un Africain noir, je pense qu'il était originaire de Madagascar, si je ne m'abuse. Et...
Mathieu Dacosta n'est pas de Mathieu, c'est Olivier Lejeune, dont on dit soit de Madagascar ou de Guinée.
Voilà.
Alors Mathieu Dacosta, il a été recruté en Hollande, mais lui, c'est un descendant de la colonisation ibérique de l'Afrique. Il a été recruté en Europe et il est venu en titre d'interprète avec Daniel de Champlain.
Oui, c'est quand même un personnage. Et il était l'interprète donc de Samuel de Champlain. Et il a fait voyager sur les côtes du Canada Atlantique et dans la région du fleuve Saint-Laurent. Parlez-nous un peu de ce personnage, parce qu'il va avoir un colloque organisé par des jeunes francophones ici dans quelques jours. Et le thème est justement parler de Mathieu Dacosta, faire découvrir aux jeunes francophones d'origine africaine, mais aussi à la communauté générale, la profondeur de ce personnage.
Oui, en fait, Mathieu Dacosta symbolise toute l'histoire des relations entre l'Europe et l'Afrique. Les premiers Européens, ce sont les Portugais, qui vont débarquer dans les côtes africaines de l'Afrique au milieu du 15e siècle. Mais ils vont arriver au Congo, au Royaume du Congo en 1488, et progressivement, ils vont avoir des relations, introduire la christianisation, et même après l'esclavage. Donc, Mathieu Dacosta est un des anciens descendants de cette colonisation, mais aussi il y a eu les Espagnols qui sont venus avant, après les Hollandais, après les Français. Donc, toutes ces relations. Mais lui, une fois qu'il est en descendant, sûrement, il a vécu très longtemps en Europe parce qu'il parlait beaucoup de langues, hein, le portugais, l'espagnol, le français. Et puis, ce qui était intéressant, c'est qu'il parlait Micmac. Donc, ce qui voulait dire qu'il est sûrement venu dans les Amériques. Est-ce que c'est le Canada ou est-ce que c'est dans les pôles Floride? Sans doute qu'il devrait être là avec les Espagnols ou quelque chose comme ça. Donc, son histoire reste à bien creuser, à bien étudier. Mais si de Champlain l'a recruté en Hollande avec un contrat très clair pour qu'il soit interprète, et c'était le seul à cette époque-là qui pouvait jouer ce rôle d'intermédiaire. Et donc, il est venu pour ça. Et au cours du premier voyage de Samuel Champlain, il l'a accompagné en Acadie en 1604-1605. Et puis, il a servi justement d'interprète en Acadie avec les Micmacs, hein, qui étaient un des groupes autochtones au Canada. Oui.
Et les Hollandais étaient des grands explorateurs. Hein. Vous savez qu'ils étaient à l'île Maurice. C'est eux qui ont mangé tout le dodo, cet oiseau qui n'existe plus. Et ils ont aussi été dans les Antilles. D'ailleurs, je reviens d'une île qui est moitié hollandais et moitié française, l'île de Saint-Martin. Et une petite île, c'est moitié à la France et moitié à la Hollande. C'est quand même assez cocasse. Alors, je rappelle, madame, monsieur, que nous sommes avec monsieur, professeur, docteur, titulaire d'un doctorat en histoire à Madouba. Il détient aussi une maîtrise en sciences politiques et d'un baccalauréat en enseignement. Docteur Amadouba vit et enseigne au Canada depuis 2010. Présentement, il donne des cours d'histoire africaine à Nipissing University à North Bay en Ontario. Il est aussi chargé de cours à la Faculté des sciences, de l'éducation et au département de sciences politiques à l'Université Laurentienne à Sudbury. Ça, c'est dans le nord de l'Ontario pour nos amis qui nous écoutent sur le web, qui sont en France, en Afrique, dans les Antilles, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous écoutent en ce moment. Professeur. Alors, vous savez, je vais partager, j'espère que la communication sera bonne et je vous remercie beaucoup de votre patience. Je sais que vous êtes très occupé, mais j'aimerais partager ce coup de cœur que j'ai eu en vous voyant à TV5. C'est tout un honneur pour la communauté noire et surtout francophone et surtout vivant en Ontario de vous voir parler avec passion cette histoire que vous racontez si bien dans votre livre paru l'année dernière, qui s'intitule « L'histoire oubliée de la contribution des esclaves et soldats noirs à l'édification du Canada de 1604 à 1945 ». Nous écoutons un extrait rapide lors de votre passage à TV5. C'était le 2 février 2020.
On peut dire aujourd'hui que les Noirs au Canada restent une minorité invisible.
C'est une minorité, mais une bonne minorité quand même, puisque la population d'Ouan est estimée à environ 1,3 million pour un pays qui compte environ 35 millions. Et puis, juste derrière les autochtones, il y a les Asiatiques, les Sud-Est, les Chinois qui sont en premier, mais qui sont beaucoup plus récents si on les compare aux Noirs. Moi, je pense que c'est une minorité qu'on qualifie de visible, mais c'est une minorité qui est là dès le début de la colonie et une minorité qui a contribué à l'édification de ce pays-là. Donc, cette minorité noire du Canada, elle doit être aussi considérée comme une minorité à part entière de notre pays.
Merci. Alors, ça, c'est très important ce que vous avez dit, que cette minorité doit faire partie de notre pays, de notre histoire. Et vous avez même, lors des entrevues, je pense à Radio-Canada récemment, parlé qu'il faut qu'on révise le cursus, ce qu'on enseigne aux étudiants dans nos écoles. Expliquez-nous Docteur Amadou Ba, parce que il y en a d'autres avant vous, et là je ne veux pas diminuer du tout vos propos, la teneur de votre de vos propos, mais il y en a d'autres qui ont essayé depuis 30 ans, 40 ans. Moi-même, j'ai été témoin de ces gens dans certaines sphères de l'éducation, mais malheureusement, ils se sont fait montrer la porte presque, parce que les gens n'étaient pas prêts d'accepter qu'on reconnaisse cette identité multiple, diverse, y compris la contribution des Noirs dans le cursus de nos écoles. Expliquez-nous un peu, comment allez-vous y prendre est-ce que vous avez des recommandations à passer, surtout s'il y a des gens des ministères de l'éducation qui nous écoutent en ce moment?
Alors donc, vous avez souligné quelque chose de très important, cette réticence qu'on ne veut pas, c'est pas simplement, c'est pas connu, il y a un peu d'ignorance là-dedans. On croit que ça n'a pas existé. Et puis quelque chose qui n'a jamais été traité, n'a jamais été abordé. Quand on en parle souvent, ça percute les gens. Hein. Les gens n'ont pas trop envie d'entendre cela. Mais ce qui est très important à comprendre, c'est que l'histoire du Canada, on dit que c'était fondé par trois peuples en général. On cite les personnes hein, qui sont là avant tout le monde. Ensuite, on parle des Français et des Anglais. Mais on ne parle jamais des Noirs. Et pourtant, les Noirs, ils sont là depuis, comme je dis, depuis le début de la colonie. Hein. Depuis 400 ans, et ils ont contribué à l'édification du pays en tant qu'esclaves. Ils ont aussi participé dans toutes les guerres que le Canada s'est engagé pour sauvegarder ce pays, pour le sécuriser, et aussi contribuer à son rayonnement international, la Première Guerre, la Deuxième Guerre mondiale, même des guerres qui ont lieu en Crimée, en Inde, avec contre les Sipahis, même en Afrique du Sud. Donc finalement, partout où les Canadiens sont allés, en fait, partout où les Britanniques sont allés et que les Canadiens l'ont appuyé, les Noirs sont allés avec. Et je me demande pourquoi on ne reconnaît pas cette histoire, pourquoi on ne met pas les Noirs aussi parmi les peuples fondateurs du Canada, au même titre que les Européens et les Autochtones, puisque ce sont les quatre peuples qui sont là et qui ont au moins 400 ans d'histoire. Tous les autres sont venus après. Aujourd'hui, les Chinois et les Sud-Asiatiques sont les plus nombreux en tant que minorité, mais leur venue est très récente. Hein. La migration des Chinois au Canada remonte au milieu du 19e siècle en Colombie-Britannique. Ils ont beaucoup contribué à la construction du chemin de fer pacifique et tout, on le sait très bien. Mais ça n'a rien à voir avec l'immigration des Noirs. Et il ne faut pas aussi que les gens minimisent le travail des esclaves. Hein. Si vous enlevez le travail des plantations aux États-Unis, il n'y a rien pratiquement dans l'économie américaine aujourd'hui. Au Canada, ce n'était pas les plantations, mais c'est les vergers, c'est les jardins, c'est s'occuper des enfants. C'est aussi faire en sorte qu'on ne va pas en Europe recruter des gens qui
font le chemin de fer.
Absolument, et tout. Donc, c'est simplement, on est dans une logique mondiale où. La contribution des Noirs dans la création d'autres mondes, dans la fabrication du monde, dans la paix dans le monde, dans la sauvegarde, c'est une contribution systématiquement niée. Et ça remonte depuis le temps de l'esclavage, la colonisation. Et c'est des pratiques, c'est des réflexes que finalement notre monde aujourd'hui a, et que le Canada aussi n'est pas une exception. Hein. À ce niveau-là, il est comme beaucoup d'autres pays du monde. Donc le moment est aussi venu de changer un peu les mentalités, d'introduire ces choses-là dans le curriculum scolaire. Pour que les gens, parce que la meilleure façon de changer les mentalités, de changer un pays, c'est de l'enseigner dans les écoles.
Mais comment faire si les gens qui sont au pouvoir, les gens qui sont responsables d'apporter ces changements, ne sont pas prêts à entendre ce message? Au contraire, ils sont là pour saboter ce que nous sommes en train de faire, que ce soit vous par vos écritures, par votre enseignement, vos colloques, vos conférences. Et c'est très difficile parce que là, on est en pleine lutte avec une force. Et souvent, les Noirs sont les grands perdants à la fin.
Oui, mais moi je suis historien. Mon rôle consiste simplement à faire de la recherche, à écrire, à éclairer les choses, à les analyser, à les expliquer, à rendre compte à l'opinion publique. Mon rôle, pratiquement, il s'arrête là. Mais il y a des actions politiques à mener. Si la communauté noire veut avoir sa place dans le pays, hein, il faut constituer des lobbies, il faut s'organiser, il faut mettre la pression, il faut aussi que les Noirs aussi s'approprient, et puis des connexions avec l'histoire de l'Afrique, etc., etc. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais oui. Comme je vous dis, mais aussi dans la presse, il y a un certain nombre d'actions à mener, mais ça c'est plutôt du domaine politique, un certain nombre de décideurs. Moi, en tant qu'historien, en tant que chercheur, je fais simplement mon rôle de retracer cette histoire, de montrer qu'elle a été là, qu'elle existe, et que les Noirs ne sont pas, contrairement à ce qu'on croit, très récents. Et vous avez souligné le cas d'un autre centre de la Nouvelle-Écosse. Moi, j'ai eu un étudiant à Sudbury, en Laurentienne, qui était un descendant des loyalistes. Oui. À chaque fois, on lui demandait ses origines. Il disait Canada, mais les gens disaient l'Afrique. Ah, regardez, il est là depuis la guerre d'indépendance américaine. Mais oui. personne ne l'a accepté parce que on peut pas être noir et canadien. C'est ça qu'il a voulu dire. Parce que l'image, elle est là, elle est terrible en fait. Donc c'est ça que pour que les gens comprennent. Maintenant, ce qu'il faut faire, oui, c'est des actions politiques, c'est la sensibilisation, ce sont les médias, c'est changer l'éducation, changer les mentalités. Ça prend un certain nombre d'actions, certaines bonnes volontés. Sûrement beaucoup d'actions politiques et de choses comme ça.
Ouais. Docteur Amadou Ba, auteur de l'histoire oubliée de la contribution des esclaves et soldats noirs à l'édification du Canada, 1604 à 1945, aux éditions Africana, que vous pouvez commander, madame, monsieur, sur Amazon. Je vous recommande personnellement d'aller vite, vite trouver votre copie. C'est un vrai plaisir. Et il y a un aspect aussi méconnu chez beaucoup de nos auditeurs, de nos amis francophones et anglophones et canadiens en général, c'est la part des Afro-Canadiens dans la guerre de 1812. Et vous en parlez à la page 174. Pour vous, ça vous intéresse parce que vous avez déjà parlé à cette antenne de la contribution des Afro-Canadiens dans les guerres.
Oui, absolument. D'ailleurs, c'était l'objectif du livre au début. Et la guerre de 1812, elle est très, très importante. Elle est majeure dans l'histoire du Canada. Parce que quand les États-Unis ont réussi à devenir indépendants vis-à-vis de l'Angleterre, ils avaient trois objectifs. Hein. Comme j'ai dit, aller carrément prendre tous les États vers le sud jusqu'au Mexique, puis aller prendre les territoires autochtones jusqu'au Pacifique. Et le troisième objectif, c'était prendre tous les territoires au nord, hein, carrément le Canada, et même s'il le faut, aller jusqu'au pôle. Bon, ils ont réussi les deux premiers objectifs, soit par la guerre, soit par des négociations, soit par des achats. Hein. Mais pour aller annexer le Canada, ils n'ont jamais réussi. Parce que les Anglais, encore une fois de plus, ont fait des promesses aux populations autochtones, et surtout aux Noirs, en leur disant de s'engager à côté d'eux comme soldats. En contrepartie, ils vont avoir... le slogan, c'était « Une ferme agricole et la liberté hein? ». Donc, vous allez être libre, vous allez avoir votre terrain, vous cultivez votre lapin de terre, etc. Vous vivrez dans un pays où vous êtes... Donc, dire ça à des esclaves, je pense que c'est un motif qui va faire en sorte que beaucoup vont s'engager. Et là, ces gens-là aussi vont s'engager, ils vont rejoindre beaucoup d'autres Noirs qui étaient là après la guerre d'indépendance. Et je parle de Richard Pierpoint, qui s'est beaucoup illustré, mais il était âgé, il a continué à créer des bataillons, des unités noires et dans le nord, dans le sud de l'Ontario. Et la part des Noirs dans cette guerre et dans toutes les guerres de 1812, de Morviatown, de Stony Creek, de Niagara Falls, 1 et 2, de Crystal Farm, Chateauguay, partout, vous allez voir la contribution des Noirs dans cette guerre-là.
Alors justement, Pierpoint, c'est un héros hein, de cette guerre de 1812.
Oui, c'est un héros. Il était âgé, mais il a joué un rôle de pionnier, puisque une fois qu'il s'est installé au Québec, parce que lui, il est originaire du Sénégal en tant que esclave. Il est allé en Virginie, passé par la Gambie, hein, qui était anglophone, à Bathurst, qui devient Bandoul. Et puis, 20 ans après la guerre d'indépendance américaine, il se retrouve en Ontario, dans la région de Saint-Catherine. Et puis là, il va être un des rares, d'ailleurs, qui va avoir un terrain, comme les promesses et tout.
Oui.
Et puis, il va accueillir beaucoup de chercheurs de liberté, qu'on appelle à tort des fugitifs, hein, un terme très grave. Et puis, après ça, dès que la guerre éclate, il va conseiller à la population noire de l'Ontario de s'engager. Parce qu'ils ont toujours vu en l'armée une voie pour se libérer, les Noirs pour se libérer en Amérique du Nord et ailleurs, doivent être des soldats, passer par l'armée, etc., etc. Donc, ça aussi, il a joué un rôle de pionnier. Et aujourd'hui, à London, en Ontario, il y a un édifice qui porte son nom. Hein, l'édifice qui s'appelle Point, parce qu'il habite à London, Ontario, on le connaît très bien. C'est le gouvernement de l'Ontario qui a donc renommé cet édifice-là pour lui rendre hommage. Et il n'est pas le seul aussi, il y a beaucoup d'autres.
Oui, le 19 janvier 1820, en reconnaissance pour sa contribution au cours de la guerre de 1812, Richard Pierpoint se voit accorder 100 acres de terre le long de la rivière Grande, dans le canton de Garafraxa, à proximité de la localité actuelle de Fergus, en Ontario. Alors qu'il avait plus de 70 ans, il vit toujours à Niagara et éprouve des difficultés à assurer sa subsistance en tant qu'ouvrier. Le 21 juillet 1821, il demande au gouvernement du Haut-Canada à York à être aidé pour retrouver en Afrique de l'Ouest. Et dans sa pétition, il dit qu'il est avant tout désireux de retourner dans son pays natal. Et c'est ça, aujourd'hui, docteur Amadou, est-ce que vous voyez... Parce que moi, je connais personnellement des Africains. Ils ont oui. essayé de patiner, de trouver un emploi, de trouver leur place au soleil au Canada, Et finalement, ça n'a pas fonctionné. Il y en a beaucoup que je connais, des professionnels, là, je parle ici, qui sont retournés dans leur pays natal. Comment expliquer que le Canada, en 2020, n'arrive pas à offrir une place à ces professionnels africains, personnes d'ascendance africaine, dans leur milieu ici au Canada, et qu'il faut qu'ils retournent dans leur pays natal? Comment expliquer cela? Parce que c'est un désespoir quand même. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas.
Je pense que vous devrez lire le livre de MLZO. Dites-leur que je suis québécois. Un très bon livre qui retrace un peu une histoire de discrimination, un peu de ça. Mais finalement, moi, je dirais tout simplement, c'est un manque de confiance aussi par rapport à toutes ces informations que les gens ont sur les immigrants, notamment les immigrants africains, et que malheureusement aussi notre continent Afrique ne véhicule pas une très bonne image dans le monde. Il y a beaucoup de corruption dans notre continent, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas, et puis ça n'aide pas beaucoup. Mais le plus grave, c'est que c'est simplement l'histoire des Noirs n'est pas connue. L'histoire des Noirs est un peu déformée dans le monde aujourd'hui. Et il y a un travail à faire, il y a un travail d'éducation, un travail de changement des mentalités qui fait que la confiance viendra. Les gens comprendront que les Noirs aussi ont des compétences. Il faut prendre, faire le travail, et puis voilà, c'est des actions comme ça qu'il faut mener en fait.
Il y a de très belles images aussi que vous avez dans votre livre qui nous montrent justement ces soldats, ces Afro-Canadiens célèbres qui ont contribué à la Seconde Guerre mondiale. Comment avez-vous fait justement pour retrouver ces archives? Quel était un peu le travail que vous avez fait de recherche pour mettre en œuvre ce livre?
Oui, j'ai fait un travail d'archives. J'ai travaillé sur des archives à Montréal. J'ai travaillé un peu. Aussi, il y a beaucoup de sources qui sont accessibles sur l'Internet, des journaux de l'époque, qui ont beaucoup de livres. Mais surtout, si on veut travailler, on fait un travail dans ce domaine-là, il faut aussi regarder du côté anglophone. Il y a beaucoup de livres sur l'histoire des Noirs en Amérique du Nord, au Canada. C'est plus en anglais. Donc ça aussi, ça m'a servi un peu, ça m'a aidé à reconstruire cette histoire-là. Mais mon livre n'est qu'un début. Il y a énormément de choses à faire, il y a énormément de travail à faire. Moi, je parle simplement des esclaves et des soldats. Mais on peut parler de la contribution dans le domaine de la culture, dans le domaine artistique, dans le domaine économique, dans le domaine politique. Et toutes ces choses-là, on peut les reconstruire et montrer véritablement que le peuple afro-canadien, les Noirs au Canada, ont toujours été là et qu'ils ont apporté de belles contributions qui méritent qu'ils soient reconnus en peuple à part entière comme les autres.
Et justement, la Fondation franco-ontarienne, quel est le lien? Comment se fait-il que pour la première fois, ils incluent un Noir de votre calibre dans leur cercle? Comment tout ça s'est déroulé? Parlez-nous un petit peu de la petite histoire.
En fait, il y a une coïncidence. Vous savez très bien que le mois de février, on célèbre au Canada le mois de l'histoire des Noirs.
Oui, oui.
Mais en Ontario, le mois de février coïncide aussi au mois du patrimoine franco-ontarien. Alors, c'est qu'on a remarqué aussi qu'il y a beaucoup de franco-ontariens, de Noirs francophones qui arrivent en Ontario, notamment dans la région de Toronto, etc. Il y a beaucoup de francophones. Et que c'est cette population, d'ailleurs, qui renouvelle la francophonie. Parce qu'avant, le renouvellement se passait par les naissances. Aujourd'hui, on sait très bien que le taux de natalité est complètement en chute. Et si on veut renouveler, si on veut maintenir la francophonie, si on veut éviter l'assimilation des francophones en Ontario, il va impérativement miser aussi sur l'arrivée des Noirs, pas seulement des Noirs, en tout cas des francophones de l'étranger. Donc, c'est à ce titre aussi que cette année, ils ont choisi une thématique, la contribution des Noirs francophones dans le patrimoine franco-ontarien. Et compte tenu de mes recherches aussi, ils ont choisi de me mettre ambassadeur pour représenter notre communauté. Et hier, j'étais à Thunder Bay pour animer une conférence dans une belle salle mixte, véritablement. Et c'est ça la diversité, c'est ça notre communauté. Et j'étais très fier de voir ça et de faire une présentation pour tout le monde. Et puis les gens ont interagi, ils comprennent aussi les enjeux. Véritablement, c'est ça, la communauté donc, francophone. Et puis aujourd'hui, si on parle de francophonie, on parle première chose de l'Afrique. Et à tel point que vous savez très bien que notre Premier ministre, il est aujourd'hui en Afrique, parce qu'il y a des décisions politiques qui vont se faire aux Nations Unies. il a le soutien des États africains, notamment d'Africains francophones. Donc, on ne peut pas se voiler la face. Hein. L'Afrique, elle est là, elle est présente. C'est l'endroit dans le monde où on parle le plus français aujourd'hui. Qu'on le veuille pas, c'est la réalité.
Vous avez raison.
Plus de 200 millions d'individus parlent français en Afrique.
C'est
en Europe, on n'est pas 70 millions maximum. En Amérique du Nord, même pas 10 millions. Donc, l'enjeu de la francophonie, c'est l'Afrique. Mais cette réalité, ce changement de la géopolitique, elle n'est pas encore connue. Et les gens, ils sont très réticents. Il faut faire des choses, il faut que les gens comprennent. Et donc, mon rôle aussi, c'est de faire ce lien entre la francophonie africaine et la francophonie canadienne, hein, de l'Ontario aussi, pour qu'on comprenne que les Africains qui viennent ici, ils ne sont pas du ciel. Il y a toute une réalité, il y a toute une logique qui font qu'ils se retrouvent au Canada.
Et il faut aussi peut-être revoir nos structures de nos institutions, c'est-à-dire où sont nos modèles. Souvent les jeunes, d'ailleurs, j'ai monté des ateliers dans les écoles dans les années 90, où sont nos modèles, parce qu'il y a très très peu de Noirs à la tête de nos institutions, de nos médias, de nos universités, et vous êtes parmi ces rares personnages. Docteur Amadou Ba, je vous rappelle, madame, monsieur, il est historien, ambassadeur du réseau patrimoine franco-ontarien. Ce qu'on aime aussi chez vous, moi personnellement, vous sortez un peu de ces sentiers battus, c'est-à-dire au lieu de parler de l'Afrique, mais d'une façon très restreinte, vous êtes très ouvert sur la culture, l'histoire des autochtones, les autres peuples africains, pas seulement les peuples du Sénégal. Et pour moi, c'est un plus parce que, d'ailleurs, j'aimerais tellement être dans une de vos classes pour voir la réaction de vos élèves à l'université de Nipissing. Peut-être un jour, vous donnerez une conférence à Toronto dans une autre université.
Je peux vous dire qu'à Nipissing, mes étudiants sont très fiers d'apprendre l'histoire de l'Afrique.
Ouais.
De magnifiques présentations sur Askia Mohamed, Sunjata Keïta, Nini Lukwa, tout ça, de belles présentations sur Nelson Mandela, Yaa Chantewa. Ils s'approprient, ils aiment l'histoire de l'Afrique. Et je pense que ça va être la même chose que si on enseignait cette histoire-là un peu partout. Parce que c'est que les informations que ces gens-là ont reçues de l'Afrique. Mmh. Et ceux qui découvrent la vérité, ça, y a totalement des différences. Je ne dis pas que tout ce qu'on dit à l'Afrique est faux. Il y a beaucoup de problèmes en Afrique, ça c'est vrai. Mais l'histoire de l'Afrique, c'est une histoire aussi douloureuse avec l'esclavage, mais aussi très belle si on prend... En certains côtés, si on prend l'histoire des grands empires africains, la prospérité économique, il y a beaucoup de belles choses qui se sont déroulées. Et les gens ont besoin de connaître l'Afrique, seulement pas à se focaliser sur des images, des maladies, des guerres, etc., etc. Il y a d'autres choses qui se passent en Afrique. Et c'est ça aussi qui redonne confiance, courage, acceptation que quand les Africains arrivent dans des pays comme ça, qu'ils soient bien reçus, qu'ils soient bien acceptés. Et puis qu'ils aussi peuvent s'intégrer, ils peuvent participer au développement, etc., etc. Donc on a besoin d'enseigner ces histoires-là. Donc, je crois que c'est très important. L'autre aussi, je ne suis pas naïf, je sais qu'il n'y a pas que les Noirs au Canada, il y a les Autochtones, il y a les Chinois, il y a les Japonais, il y a les Latinos, il y a tout le monde. Et finalement, le travail que je fais pour les Noirs, c'est le même travail qu'on doit faire pour toutes les communautés, puisque nous sommes dans un pays de diversité, un pays de multiculturalisme qui est reconnu dans notre Parlement. Donc, c'est ça qui fait la force du Canada. Moi, je le fais pour les Noirs, mais j'aurais aussi pu faire pour les Autochtones. Et c'est ça qu'il y a des collègues qui travaillent beaucoup sur les Autochtones, qui font de très belles choses. Et aussi, ils me nourrissent, on échange, on fait beaucoup de choses ensemble. Donc, c'est ça, il faut aller maintenant.
Comme disait un de nos amis poètes à Toronto, qui est membre de cette émission, qui nous écoute peut-être en ce moment, docteur et professeur Eddie Bouraoui, qui a inventé ce terme transculturalité, la transculture. Et c'est ça, hein, un peu le Canada. Je rappelle aux gens que vous êtes aussi auteur de deux autres livres, dont un qui traite du recrutement de soldats ouest-africains durant la conquête et la colonisation de Madagascar de 1895 à 1960, publié aux éditions L'Harmattan en 2012. Et l'autre livre qui s'intitule « Quelles valeurs transmettre aux jeunes au 21e siècle ? Une éducation morale et éthique » plus marqué pour soulager un monde en détresse, paru en 2016 aux éditions Essai pour tous à Montréal, au Québec. Et vous avez d'ailleurs à votre actif plusieurs articles publiés dans de célèbres revues scientifiques et universitaires du Canada, de la France, du Sénégal. Et vous intervenez régulièrement comme conférencier dans les écoles. Donc si les gens veulent vous inviter, ils peuvent aller sur notre site. Vous allez avoir tous les renseignements sur Dr Amadou Ba, qui est d'ailleurs notre Invité de marque pendant tout le mois de l'histoire des Noirs, vous allez nous revenir, si vous avez le temps, la semaine prochaine, pour Absolument. Commenter un peu les réactions des gens, parce que je vois là qu'il rentre des questions, des bonnes réactions, beaucoup, beaucoup de réactions positives, et les gens, j'espère qu'ils vont aller acheter votre livre. Alors, Absolument, pour terminer...
Je les conseille vivement de l'acheter, hein. Vous avez souligné Amazon, mais aussi ils peuvent me contacter pour acheter mon livre avec ouais. moi aussi.
C'est, très bien.
C'est la façon aussi de soutenir l'écrivain, c'est d'acheter
Exactement.
Son travail.
Exactement. Oui.
Ah, ça va nourrir la pensée et la motivation. Et pour, on est là pour oui. écrire
et,
aussi.
Et ouais. pour terminer, quel est ce feu qui est en vous, qui vous donne cet espoir que le Canada sera un jour un pays égal où tout le monde aura sa place? Et parce que pour moi, ce sont les proverbes africains, hein, les proverbes de mes ancêtres, de ma grand-mère, de mes tantes. Et parce qu'il y a tellement de vérité dans les proverbes africains, je trouve. D'ailleurs, on aura l'occasion d'en entendre un grand comédien africain avant la fin de l'émission. Et pour vous, docteur Amadouba, quel est ce feu qui vous habite et qui vous donne espoir à aller de l'avant?
En fait, c'est deux choses. Parce que d'abord, le Canada est un des rares pays au monde à avoir accepté le multiculturalisme intégral dans sa constitution. Et ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de pays dans le monde qui ont fermé complètement les yeux, qui ne veulent pas le faire. Mais il ne suffit pas de le faire, il suffit aussi de le pratiquer. Donc, je crois que si le Canada le fait, il est possible que le Canada le pratique. Et le Canada aussi, c'est un pays de diversité. On a vu, c'est une fédération avec des provinces différentes, mais les gens ont cette habitude à travailler ensemble, à dépasser les différences. Mm-hmm. Donc, si on est capable de dépasser les différences, les rivalités francophones, anglophones, les rivalités autochtones, francophones, anglophones, toutes ces rivalités, on est capable de travailler ensemble. Ça veut dire aussi qu'on est capable aussi de faire avec toutes les communautés, et finalement, de créer un pays où tout le monde se sent véritablement canadien, en oubliant ses origines, sa couleur de peau, sa religion. Ce n'est pas le plus important pour être citoyen d'une nation. Être citoyen d'une nation, c'est de vivre, c'est d'épouser un projet, c'est d'aimer un pays, c'est d'être un patriote, etc., etc. Et ça, je pense que les Noirs, ils l'ont en eux, les Chinois qui sont là, ils l'ont en eux, les Indiens, les Sikhs, les Latinos, toutes les minorités qui vivent ici, ils ont choisi le Canada, c'est parce qu'ils aiment le Canada. Donc, c'est, quand on aime un pays, on décide d'y vivre aussi. Je pense qu'il faut qu'on donne la chance aux gens de donner tout l'amour et tout ce qu'ils peuvent pour ce pays-là. Et c'est le Canada qui va en être gagnant. Hein. C'est pas l'histoire de l'Afrique, ça. C'est pas l'histoire des Noirs, c'est d'abord l'histoire du Canada. Hein? Vous avez vu l'équipe de France quand ils ont gagné la Coupe du Monde avec la moitié des Noirs originaires d'Afrique. Mais où est-ce que, avec toute cette retombée économique, est-ce que les États africains ont eu en dollars ou en euros?
Et notre équipe de Toronto, les Raptors.
Si ça fait la force du pays.
Et notre équipe de Toronto, les Raptors.
Les Raptors aussi, ça arrive. Donc, c'est ça, en fait.
Écoutez, professeur voilà. Amadouba, je vous remercie infiniment. Du fond du cœur, je vous remercie. Je rappelle aux gens, vous êtes auteur de ce dernier livre qu'il faut avoir, madame, monsieur, absolument. L'histoire oubliée de la contribution des esclaves et soldats noirs à l'édification du Canada.
Juste pour finir, je vous dis que c'est vrai que j'ai tenu à faire cette émission. Je l'ai fait dans mon taxi qui me mène à l'aéroport. Je ne sais pas s'il y avait même du bruit et tout ça. Je n'étais pas assez calme, concentré. Donc,
ça va, là,
je suis à Thunder Bay. Je prends l'avion pour retourner chez moi et tout. Mais je voulais quand même tenir parole et ne pas perturber les choses et tout. Et je vous remercie aussi. S'il y a des désagréments dans le ton et puis des choses, je demande aussi que les éditeurs et les éditeurs m'excusent. C'est simplement, je tenais à faire cette émission-là pour tout le monde.
Je vous remercie
beaucoup.
Infiniment.
Et puis, bon mois de l'histoire des Noirs et bon mois. Patrimoine
et on se reparle hein, peut-être à la semaine prochaine. Et puis Absolument. Je vous souhaite un bon voyage et encore un grand merci de la part de tous les étudiants, les professeurs et les auditeurs. On vous applaudit. Allez, bon voyage et à très bientôt, professeur. Février 2020, mois de l'histoire des Noirs. Nos émissions s'inscrivent dans le contexte de la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine. Eh oui, c'était décrété par l'ONU 2015 à 2024. Au cours des 20 dernières années, la taille des communautés noires au Canada a doublé, passant de 573 000 membres en 1996 à plus d'1 million de personnes d'ascendance africaine en 2016. Émission spéciale dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. On va y aller avec la fondation Sylvanie Lindor qui organise un colloque, un forum et pour les jeunes, mais aussi pour les francophones en général. Ce mois-ci, on en parle. Et puis, on va voir la programmation à Gatineau, à Québec, la ville de Québec. Il se passe des choses très intéressantes. Et que font nos jeunes dans nos universités de Toronto, le campus de Mississauga avec la professeure Caroline Lebrec. Tout de suite, le flash de l'actualité avec RFI. Restez des nôtres.
Solo est un V.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you the best Latin music, new and old, on Ultra Latino with DJ Chelly. CIUT 89.5 FM, the sound of your city. Your radio, CIUT 89.5, the sound of your city.
Gilles Moreau.
Dans l'actualité, l'ouverture du sommet annuel de l'Union africaine, les chefs d'État et de gouvernement sont actuellement réunis à Addis Abeba, en Éthiopie. Faire taire les armes, c'est le thème de ce sommet qui se penche entre autres sur la crise libyenne. Avec plus de 800 morts en Chine continentale, le bilan de l'épidémie de coronavirus dépasse maintenant celui du SRAS. Il y a une quinzaine d'années, toujours en Chine, alors que des millions de Chinois sont de retour dans les grandes villes après les vacances du Nouvel An, eh bien de nombreuses sociétés resteront fermées demain lundi. Quant aux étrangers, leur rapatriement se poursuit. Ce matin, un deuxième avion affrété par Londres pour rapatrier 200 Britanniques a atterri au Royaume-Uni. Il avait décollé de Wuhan, considéré comme le foyer de l'épidémie. Enfin, parmi les innombrables conséquences économiques, des désistements en série au salon aéronautique de Singapour. Plus de 70 exposants ont annulé leur participation. En Thaïlande, la tuerie perpétrée hier par un soldat a fait 27 morts, dont l'assaillant, ainsi qu'une cinquantaine de blessés. Événement sans précédent, a réagi le Premier ministre thaïlandais dans un pays sous le choc. Hier, le tueur a tiré au hasard dans un centre commercial avant d'être abattu par la police après des heures de siège. L'Iran annonce qu'il va procéder ce dimanche au lancement d'un satellite d'observation. Il va être lancé malgré les mises en garde des États-Unis et de leurs alliés. Les Américains assimilent ces tirs de fusée au développement clandestin de missiles balistiques. Deux militaires américains tués, six autres blessés en Afghanistan. Ils ont été la cible d'une attaque hier dans l'est du pays, dans la province de Nangarhar. Le dépouillement des bulletins de vote a commencé en Irlande au lendemain d'élections législatives dont le résultat s'annonce très serré. Ce décompte pourrait prendre plusieurs jours en raison de la complexité du mode de scrutin. Hier soir, un sondage sorti des urnes donnait les trois principaux partis, deux de centre droit et un de centre gauche, au coude à coude avec environ 22% des voix. La partie nord de l'Europe est balayée actuellement par une tempête. 35 départements de la moitié nord de la France sont placés en alerte. En Belgique, une soixantaine de vols au départ ou à destination de l'aéroport de Bruxelles ont dû être annulés. La deuxième journée du tournoi des Six Nations a commencé hier avec la victoire de l'Irlande sur le Pays de Galles et celle de l'Angleterre sur l'Écosse. Place au match France-Italie ce dimanche. Après leur succès probant contre l'Angleterre, les Bleus partent nettement favoris. Coup d'envoi au Stade de France, 15h, temps universel. Enfin, en basket, les filles de l'équipe de France tiennent leur billet pour les Jeux Olympiques de Tokyo après avoir battu le Brésil.
CIUT 89.5, Toronto.
Pour exprimer nos pensées, nous qui luttons pour chercher le respect des autres, nous qui ne fléchissons pas devant les remarques des autres, les jugements que l'on nous porte, nous qui nous sommes défendus contre les abus physiques ou moraux, nous qui avons surmonté les discriminations sexuelles, hommes, femmes, hétéros ou homosexuels, nous qui avons vaincu un handicap ou une maladie, nous qui élevons nos enfants, parfois seuls. Nous qui puisons en nous le courage, la force et la volonté pour changer, avancer et s'élever. Nous qui surmontons tous les jours des inégalités sociales. Nous qui devons lutter pour nourrir notre famille. Aujourd'hui, nous sommes 50 héros à être sortis de l'ombre. Nous sommes debout devant vous pour défendre les droits humains, la liberté d'expression, l'égalité des genres, pour combattre l'injustice et la violence. Nous voulons faire évoluer les mentalités et les comportements pour une société juste. Demain, soyons plus de 50 000 héros à rejoindre le mouvement et plus nombreux à Rise and Shine.
Chaque semaine, Afrique, le train de l'histoire avec ses 12 embras.
Ouagadougou, la capitale actuelle du Burkina Faso, a connu de profondes mutations en 5 siècles d'histoire. Ces transformations sont de tous ordres, politiques, administratives, sociales, économiques, culturelles, environnementales et urbanistiques.
La radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
Afrique, le train de l'histoire avec ses 12 embras.
Afrique, mon Afrique. Afrique que chante ma grand-mère au bord de son fleuve lointain.
Une ville, une histoire. Ouagadougou, Ouarodoro.
Ouarodoro, Ouagadougou, Ouagadougou, Ouagadougou ou Ouarodoro. Selon les auteurs et les époques, question d'école aussi sans doute, l'actuelle capitale du Burkina Faso ne porte pas tout à fait le même nom. Et ces noms ne s'écrivent pas toujours de la même façon. Pourquoi et comment une telle pluralité de termes pour désigner une seule localité? C'est la question que se sont posées les auteurs d'un ouvrage collectif qui retrace, et c'est d'ailleurs le titre de ce livre, l'histoire de Ouagadougou, des origines à nos jours. Diverses versions sont proposées pour expliquer l'étymologie du nom originel, Ouarodo ou Ouarodoro, et sa transformation progressive en Ouagadougou, tel qu'on l'appelle aujourd'hui. J'en ai retenu une, celle de la linguiste burkinabé Hortense Nikiema, telle que rapportée dans cet ouvrage. Elle écrit que le toponyme est formé de Waog, W-A-O-G, qui signifie « respecter, honorer » et de « do », post-position, qui traduit l'idée de « nous » en français. L'adjonction du suffixe « go » provoque l'effacement du « o » final de « wordo », ce qui donne « wordoro ». Prononciation très répandue chez les locuteurs natifs de la langue morée. Ouagadougou, tel qu'on le prononce désormais, serait né des difficultés liées à la prononciation du vocable « wordo ». Cette version est classée dans la catégorie de ce que nos auteurs appellent la contribution des linguistes. Rien à voir avec les versions dites fantaisistes. Mais allons au-delà de ces débats étymologiques, remontons le cours même de l'histoire et donc du temps pour expliquer les circonstances de la naissance et le sens de Ouarodoro. Période de référence, le 15e siècle. Lassina Saint-Poré, l'un des auteurs de Histoire de Ouagadougou, des origines à nos jours.
Défends tes convictions, stand for something. Phrase rendue célèbre par Malcolm X. Ce mois est également l'occasion pour nous de nous rappeler de ces figures marquantes de l'histoire du Québec, des issues des communautés noires dans différents domaines.
Dans le monde de la musique, je pense aux grands pianistes Oliver Jones et Oscar Peterson, ou à Lamine Touré, fondateur du Festival international Nuit d'Afrique. Dans le monde du sport, je pense à Bruny Surin, champion olympique, ou Philippe Alou, récemment intronisé au Panthéon du sport canadien. Dans le monde des affaires, je pense à Amina Jarva, fondatrice et présidente directrice générale d'Afrique Expansion, ainsi qu'à Ralph Gill, vice-président senior chez Fiat Chrysler.
Mois de l'histoire des Noirs 2020, une histoire à raconter. Mais quelle histoire ! Tout au long du mois de février 2020, Popourri Show et CUTFM vous invitent à découvrir les talents, les héros, les artistes, poètes, historiens, entrepreneurs, les voix des sans-voix de la diaspora africaine et antillaise, de Toronto et du Canada. Et oui, fort de la belle réussite en 2019, le Centre Rire 2000 vous invite à un show hommage dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs 2020. Et oui, ça a démarré sur en grande pompe, hein, il faut bien le dire. Et nous avons le plaisir, madame, monsieur, de parler en détail de cette programmation haut en couleur avec Benoît Sanga. Il est ingénieur et gestionnaire chez Centre Rire. Qu'est-ce que c'est le Centre Rire ? Membre du comité du mois de l'histoire des Noirs à Québec qui se déroule jusqu'au 29 février prochain. Bonjour, monsieur Benoît Sanga.
Oui, bonjour.
Et cela me fait plaisir de vous avoir pour la première fois à notre émission. En 33 ans, c'est la première fois qu'on vous révèle aux Torontois, Torontoises, aux Ontariens, Ontariennes et au monde entier parce que nous sommes sur le web.
Ah, bon, écoutez, ça me fait plaisir.
Ouais. Alors, il y a Radio France Internationale aussi qui est très intéressée par votre profil professionnel parce que quand même, vous avez... C'est très intéressant de voir ce que vous faites dans la région du Québec parce qu'il y a beaucoup de franco-ontariens, des immigrants qui me disent que c'est pas évident d'être noir, d'être africain, antillais et de vivre dans la ville de Québec. Or, ce que je vois, tel n'est pas le cas.
Bon, c'est pas le cas. Écoutez, les choses ont beaucoup évolué. Écoutez, le monde évolue également. Il y a beaucoup de réalités. Bon, je crois d'une part aussi, ça prend les Noirs eux-mêmes aussi à prendre leur place parce que nous devons reconnaître les bons côtés de ces sociétés canadiennes, québécoises en particulier, donc de cette ouverture. Oui, les obstacles, il y en a. Ça, on ne peut pas jouer à l'autruche. Hein. Mais seulement, donc, si on cherche les moyens, on peut trouver sa place.
Quels sont les plus gros obstacles, d'après vous, pour les personnes d'ascendance africaine au Québec, et la ville de Québec, mais au Québec en général?
Ben, c'est comme un peu partout. Je crois que l'intégration passe par l'intégration économique, en fait. Donc, c'est d'abord l'emploi. Hein. Donc, et quand on a l'emploi, donc on a les moyens financiers. En ayant les moyens financiers, donc, écoutez, on peut se procurer tout ce dont on a besoin pour mieux vivre. Et c'est le début d'un sentiment d'appartenance dans une société. Côté emploi, oui, c'est vrai que des fois, il y a des obstacles, mais quand même, il y a beaucoup de ressources aussi qui sont là pour pouvoir accompagner les gens. Écoutez, les gens viennent d'une autre société, avec une autre culture. On arrive en Amérique du Nord qui a sa façon d'être. Et encore plus quand on est au Québec, où la majorité elle est blanche, qu'on se l'est dit, ce n'est pas Toronto. Et là aussi, il faut fournir beaucoup d'efforts.
Vous savez qu'il y a vos collègues des regroupements, des communautés noires dans la région de Montréal qui ont demandé qu'il y ait un rapport parce que la police de la ville, de la communauté urbaine de Montréal, je pense, avait été épinglée par plusieurs incidents entre les Maghrébins, les Noirs, les Autochtones. Et finalement, le rapport est sorti. C'était assez accablant pour la force policière. Et je trouve que de plus en plus, les Noirs de la région de Montréal s'organisent pour justement montrer qu'il y a des talents, qu'il y a des gens qui font des choses extraordinaires, mais qui sont encore méconnus. Et comment expliquer justement que la force de l'ordre d'une société dite démocratique arrive à traiter des personnes de couleur ou encore d'ascendance africaine de cette manière? C'est quand même choquant, n'est-ce pas?
Oui, bien sûr que c'est choquant. Bon, là, on parle un peu de profilage racial. Ça a toujours été un problème connu en Amérique du Nord, en particulier dans certaines villes comme Montréal Ça c'est connu et reconnu, en fait. Et c'est choquant. C'est là où, pour moi, nous devons fournir beaucoup d'efforts. Il faut dénoncer. Mais de l'autre côté, outre dénoncer, nous devons aussi trouver des façons d'amener les gens à dire que non, je crois que ce que nous faisons, ce n'est pas bien, parce que cette catégorie de la population investie dans cette société contribue également. Dans toute catégorie de la société montréalaise, comme canadienne, comme québécoise, où il y a de jeunes qui suivent une voie qui n'est pas appropriée, mais il ne faudra pas que la majorité paye pour ça. Parce qu'on va retrouver cette catégorie aussi dans la communauté, ou bien communauté blanche, mais on n'en fera pas d'histoire. Parce qu'en principe, donc, il faut, ça devient comme deux poids, deux mesures. Parce que bon, il y a un jeune noir qui a posé des gestes, ou il y a plusieurs jeunes qui ont posé des gestes et pas appropriés, et voilà, c'est toute personne qui ressemblerait à ce jeune devient une cible. Là, je crois qu'il y a un manque de rationnel.
Benoît Sanga, ingénieur et gestionnaire chez le Centre RIRE et membre du comité du mois de l'histoire des Noirs à Québec qui dure jusqu'au 29 février prochain, madame, monsieur, si vous désirez aller faire un petit tour dans la ville de Québec. Très belle ville, d'ailleurs, que je vous recommande. Très touristique
aussi.
Ah oui, alors, pour les gens qui nous écoutent, disent Benoît Sanga. C'est un beau nom, mais en même temps, on ne vous a pas tellement entendu ici. Or, vous êtes très actif dans les comités consultatifs. Vous avez participé à de nombreuses consultations pour apporter cette voix, justement pour apporter un peu d'égalité, hein, pour la participation, la pleine participation des communautés noires au sein des politiques, des gouvernements, n'est-ce pas? Et quel est justement votre... Qu'est-ce que c'est d'abord le Centre RIRE? Parce que pour les gens de Toronto, ils ne
connaissent pas, ouais, le Centre Épidémie. Effectivement, mon RIRE, c'est un acronyme. La première lettre R, c'est rattrapage académique. Ça sous-entend, bon, ça démontre un peu notre intervention auprès de la clientèle immigrante dans la reconnaissance des diplômes et des compétences. La deuxième lettre est I, qui est intégration socio-professionnelle, donc nous accompagnons dans l'intégration économique. La lettre R, qui est en lien évidemment avec cette implication sociale, les rapprochements. Donc, écoutez, il y a deux façons d'être activiste. On peut être un activiste qui va essayer de dénoncer d'une façon agressive, comme on peut être activiste un peu, comment je vais dire, qui est dans l'ombre, mais qui opte pour des actions qui vont ressortir un peu les côtés positifs de la clientèle marginalisée, les cas des Noirs. Ouais. Donc cette lettre-là, rapprochement, c'est un peu ça le but, où on essaie de sensibiliser les gens sur l'apport de l'immigration et faire ressortir nos modèles ici. Donc nous avons des jeunes qui se démarquent. Bon, moi, ça fait longtemps que je suis là, mais quand même, je mets l'accent sur les jeunes. Et c'est pourquoi donc cette programmation où on met les jeunes en vedette. Hein, donc, et puis on fait ressortir un peu l'apport de ces jeunes aussi dans cette communauté.
En tout cas, vous faites un travail formidable. Vous avez un site web formidable. D'ailleurs, je vais en faire la promotion sur notre site après la fin de cette émission, afin que les gens puissent aller voir. Il se passe des choses intéressantes. Il y a des critiques, mais constructives. Vous voulez apporter des solutions. Vous voulez promouvoir la pleine participation des communautés noires. Et aussi faire fonctionner cette démocratie, hein, du Québec, de la société québécoise.
C'est important.
Oui, voilà, apporter une participation juste et équitable, une reconnaissance. Bravo pour votre travail. Et parlez-nous un petit peu justement de cette programmation très, très riche. D'ailleurs, vous avez des personnalités, des diplomates qui étaient au rendez-vous pour l'ouverture qui s'est faite en grande pompe, je pense, hein?
Bon, oui, c'est sûr qu'il faut toujours s'investir là-dedans pour essayer. C'est un message un peu double. Hein. On cible la société d'accueil, donc les membres de la société d'accueil majoritaire, pour démontrer que, écoutez, on est là, nos jeunes contribuent, c'est l'élite à venir de cette société qui est en mutation. De l'autre côté aussi, ces jeunes aussi qui se sentent marginalisés, écoutez, nous avons aussi des modèles, hein, beaucoup de modèles en fait. Donc, bon, déjà le 20, on a une activité au Palais Montcalm avec le ministère des Relations internationales et de la Francophonie, avec la ministre qui est d'origine haïtienne, qui sera là, qui va recevoir des jeunes et puis d'autres partenaires. Nous avons notre activité le 21, qui est vraiment le gros événement de reconnaissance où nous rendons hommage à des jeunes qui sont démarqués. Mmh. Et également, la particularité, vous savez, dans notre façon de faire, et on touche également des Québécois blancs qui ont contribué d'une façon ou d'une autre donc, à l'installation, à l'intégration de nos concitoyens issus des communautés noires. Donc, il y a beaucoup d'exemples ici. Écoutez, vous savez quoi ? C'est une particularité. Nous avons un jeune qui s'appelle Ibrahim Sako, qui est un directeur d'une banque nationale à Québec.
Eh ouais. Eh ouais. C'est faux le faire. Alors donc, vous voyez, vous nous faites découvrir des choses. Parce que souvent, on lit dans les journaux de la mauvaise presse, des histoires macabres. Et c'est bon d'avoir des porte-paroles comme vous pour venir apporter ce côté positif et ce travail de terrain hein, que vous êtes en train de faire.
Je pense que c'est important. Ouais, c'est important parce que faire ressortir les modèles, c'est pour inspirer les plus jeunes pour dire, écoutez, faites attention en fait. Oui, c'est vrai, vous vivez le profilage racial, vous vivez des, toutes sortes de préjugés, mais fournissez un effort parce que d'Ibrahim Sako, il y a de Irène Dallaire, une autre jeune congolaise, il y en a beaucoup de ces jeunes-là donc, qui se démarquent dans ce système. Oui, on est minoritaire encore dans la vie de Québec, mais quand même, on bouge, on réalise. Ouais. Et beaucoup d'autres qui sont dans le domaine de la santé, en fait.
Dans 2016, il y avait un article dans le journal de Montréal qui parlait justement ces maisons de recrutement qui passaient des commandes vraiment... On n'arrive pas à comprendre quand... Non, 2000, 2016, on parle encore de ces choses-là, même peut-être aujourd'hui, de nos jours. Il y avait des entreprises qui disaient carrément à ces recruteurs, des chasseurs de tête, comme on les appelle, que oui, tu vas me présenter des candidats, mais surtout pas les Noirs.
Hein. Pas des Noirs.
Vous avez lu ça, hein, quelque part.
Oui, j'ai suivi ça. C'est pas
alors, madame, monsieur, on va vous mettre un peu dans le feu de l'action, dans cette cérémonie d'ouverture. Dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs au Québec, cela s'est passé, c'était au Palais Montcalm, non ? Où est-ce que s'est déroulée votre ouverture, le lancement ?
Bon, le lancement en soi, donc, c'est au Palais Montcalm que nous organisons, c'est un milieu prestigieux en fait, donc où vraiment on démontre également, en invitant les jeunes aussi, donc qui des fois n'ont pas la chance de fouler les sols donc, de ces milieux-là, et puis de voir que, ah ok, donc nous aussi, voilà, donc le Palais Montcalm est situé dans la ville de Québec, à un endroit bien connu qui est Place Duville, en fait. Mmh. Donc c'est
très touristique.
C'est très touristique également.
Et là, on va plonger les gens dans cette soirée extraordinaire. Il y avait des musiciens, des percussionnistes. Et écoutons un diplomate qui était là, le consul de France du Québec, et il était à vos micros.
Ben, je suis Frédéric Sanchez, consul général de France à Québec. Je suis arrivé en septembre et je vous remercie de m'avoir invité. Je découvre votre table de concertation, la façon dont vous organisez ce mois de l'histoire des Noirs. Et je suis vraiment très heureux de constater qu'il s'agit d'une belle manifestation qui porte de belles valeurs. Valeurs qui visent à effectivement améliorer encore ici au Québec, au Canada et partout dans le monde la relation entre nous tous, issus de communautés et d'histoires différentes. Et dans les mois qui viennent, j'espère que le Consulat général de France pourra engager avec vos associations, avec la table de concertation, eh bien, des activités communes pour aller de l'avant et faire avancer la lutte contre les discriminations.
Et oui, c'est très très bien comme message. Je voulais absolument le faire passer.
Je vais apporter quand même des précisions. En fait. Oui. Ça, c'est l'ouverture sous la responsabilité de la table de concertation.
Mmh.
Oui. Donc, qui s'est passé, je crois que c'était les deux. Donc, parce que la table de concertation, supervise un peu la programmation au niveau de la vie, une partie de la programmation au niveau de la vie des Québécois.
Mais c'est bien de voir c'est beau de voir des diplomates, des personnalités qui appuient votre travail. Et je rappelle aux gens que Québec est constitué de quelques 165 cultures différentes. En 2001, 10% de la population québécoise était issue de l'immigration et 7% faisaient partie d'une minorité visible. La majorité des personnes de 15 ans et plus issues des minorités visibles, soit 86%, sont nées à l'étranger et 12% ont au moins un parent né à l'étranger. La grande région de Montréal accueille environ 80% des personnes issues de l'immigration. Alors, il y a aussi une exposition, je vois ici, là, qui dure jusqu'au 21 janvier, Québec interculturel depuis 400 ans déjà.
Oui, voilà, c'est une exposition qui a été montée en 2008 pour souligner les 400 ans de la ville de Québec. C'est le centre Hébert des Milles qui a né un peu le porteur en fait de cette exposition là. À chaque année, nous essayons de moderniser certains personnages. Donc, on fait ressortir un peu les personnages qui se démarquent. Les communautés, en fait, d'une façon un peu globale, on en parle. Donc, encore une fois, un autre outil pour faire ressortir un peu l'apport des migrations dans la ville de Québec.
Et je vous rappelle, madame, monsieur, le 21 février de 18h à 18h30 à 21h, si cela vous intéresse et que vous êtes libre, peut-être j'irai faire un tour, on ne sait jamais. Hein.
Mais on ne sait jamais, effectivement.
Le Centre Rire 2000 vous invite à un show hommage dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, vendredi 21 janvier au Palais Montcalm de Québec. La soirée débutera par la reconnaissance de ses partenaires, fellows, du monde à connaître, suivi du spectacle qui va mettre en vedette Kelly Badeau, Tony Tiquet et le groupe Défi Gospel et les petits chanteurs de Beauport. Alors bravo. Et monsieur Benoît Sanga, vous savez que nos micros sont ouverts à vous à l'année longue, parce que ça c'est très beau comme expérience. Et je reçois là beaucoup de courriels, beaucoup de messages qui vous applaudissent. J'espère que vous aurez l'occasion de repasser à nouveau, ou encore quand il y a des sujets d'actualité qui intéressent vous, vos membres, vos comités, n'hésitez pas, si vous voulez aussi nous envoyer les noms, les coordonnées des artistes, des gens qui font des belles choses, ou si vous recevez de la grande visite, des fois, vous voulez nous partager, qui sait, on sera vraiment très heureux d'être un partenaire avec vous et votre organisme.
Ah, c'est très gentil.
D'ailleurs, félicitations à toute votre équipe, hein, parce que les gens ont réactivé. Moi, j'étais dans les Antilles, sur une plage, et puis les gens ont réagi, ont répondu tout de suite à notre invitation. Alors, je trouve ça bravo à toute l'équipe. Et d'ailleurs, vous êtes au bureau. En ce dimanche, vous êtes au bureau. Est-ce que j'ai le droit de le dire?
Ah oui, je suis au bureau, mon ami. C'est le mois de soirée noire, donc il faut travailler fort.
Allez, on garde le contact, hein, monsieur Benoît Sanga. Bravo et merci encore d'avoir été des nôtres. Bon mois de l'histoire des Noirs.
Ok, c'est gentil. Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir. CIUT 89.5, Toronto.
Bonjour, mon nom est Paul Evra. Un message à ma génération. Chaque génération a tenu la plume de son histoire et de ses combats. Notre combat, c'est face à l'inaction. Notre crayon, notre arme, c'est la persévérance. Persévérance contre les changements climatiques. Persévérance contre les préjugés. Persévérance contre les inégalités sociales. Persévérance contre l'exclusion. Être inactif, c'est donner nos pages blanches à ceux qui acceptent ces injustices. Nous avons donc la responsabilité de préserver et d'enrichir l'héritage des anciennes batailles ainsi que d'apporter notre pierre pour les générations futures. L'histoire s'écrit, c'est à notre tour de tenir le crayon.
Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
France 24. 4 chaînes d'information continue, 430 journalistes, 35 nationalités, 160 bureaux de correspondants à travers le monde.
une présence mondiale. 355 millions de foyers reçoivent France 24 dans plus de 180 pays. 55 millions de téléspectateurs regardent la chaîne chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 31%. France 24, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 18 millions de visites sur france24.com et 40 millions de vidéos vues en ligne. France 24 est numéro 1 sur YouTube et ses 35 millions d'abonnés sur Facebook et Twitter font d'elle la première chaîne française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus à nous faire confiance.
Merci. Merci à France 24, RFI et TV5 Monde. Un auditeur nous dit, savez-vous, monsieur, quand les Blancs sont vraiment nos amis? Et il a la réponse pour nous et vous. Qu'en pensez-vous? Quand un Blanc ou des Blancs sont vraiment nos amis, au lieu de dire, ah ben oui, moi j'ai marié un Noir, moi je ne suis pas raciste, moi j'ai un Noir dans ma classe, à mon bureau, moi j'ai embauché ceci. Quand dites-vous que les Blancs sont... Comment reconnaître d'ailleurs? Et moi aussi, j'ai une petite réponse pour vous. Allez, je vous envoie avec des proverbes africains. C'est peut-être cette flamme qui continue à nous faire vivre, à dépasser les défis et aussi les moments sombres de notre vie. Je vous laisse avec un comédien que j'admire. Ah oui, on y va, mon cher ami. Moi de l'histoire des Noirs, édition 2020. 2020.
Bimbi mato anda anjata, ando ha iuda. Si tu ne sais pas où tu vas, sache quand même d'où tu viens. Toi andi anda andan, toi anda 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 ta et toi andi bo andin. Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Mais si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras jamais. Et quand tu sais, fais le savoir. Taturambia wa yanjurnora rumodu godo. Oya boturo to abaoma yurno rumoduma. Ne te baisse jamais pour regarder dans le derrière de quelqu'un. Sinon quelqu'un d'autre se baissera aussi derrière toi pour regarder dans le tien. Toa wolwani goddo salina nan goma sirwa nanan monde goto nanani mo afama ko wadi kanko salino nanan goma. Si tu parles à quelqu'un et qu'il ne t'écoute pas, tais-toi.
La communauté noire représente aujourd'hui plus de 3,5% de la population totale du Canada et 15,6% de la population définie comme faisant partie d'une minorité visible ou racisée. Je déteste ce mot. Selon les projections démographiques et de Statistique Canada, la population noire poursuivra sa croissance et pourrait représenter entre 5,0% et 5,6% de la population canadienne d'ici 2036. Une des particularités des communautés noires du Québec et du Canada est la jeunesse de leurs membres. En effet, en 2016, l'âge médian de la population noire était de 29,6 ans, alors qu'il était de 40,7 ans pour la population totale. La population noire du Canada et du Québec est fortement concentrée dans les grands centres urbains tels que Toronto, Montréal, Ottawa, Gatineau, Edmonton et Calgary. Dans un instant, madame, monsieur, justement, nous allons parler avec la relève de la communauté noire, la jeunesse francophone d'ascendance africaine et antillaise qui vous invite à un rendez-vous sur Mathieu Dacosta. Quand? Pour qui? Dans un instant avec André Venor, directeur de développement et des opérations de la Fondation Sylvanie Lindor. Il nous présentera la programmation de ce prochain forum. Parlons d'entrepreneuriat et du e-commerce et de leadership à la séance de Mathieu Dacosta le 22 février à Toronto.
C'est Jean-Marcus. Serge Marcus aux commandes du Big Tempo.
100% hip-hop R&B.
Va monter ton rythme cardiaque. C'est parti et il n'y aura pas de place pour les petits joueurs.
Nous avons les soldats du micro qui sont en studio. Nous allons les recevoir. C'est bien sûr le Reflex qui est là aussi et surtout CTN All Stars.
Alors, Yvo Duno, nous allons t'écouter justement en featuring Fali. C'est au bout de la route. Et écoutez quelqu'un qui a des accents très européens dire des choses très africaines, j'allais dire très béninoises au sujet.
Mois de l'histoire des Noirs 2020. Une histoire à raconter. Mais quelle histoire ? Tout au long du mois de février 2020, Popourri Show et CUTFM vous invitent à découvrir les talents, les héros, les artistes, les poètes, les historiens, les voix des sans-voix, les jeunes, les entrepreneurs de la diaspora africaine et antillaise, de Toronto et du reste du Canada. Soyez des nôtres tout au long du mois de février. Mois de l'histoire des Noirs 2020. Une histoire à raconter. Et oui, nous avons le plaisir d'accueillir André Venor, qui est directeur de développement et des opérations de la Fondation Sylvanie Lindor, notre partenaire de choix. Bonjour André.
Bonjour, vous allez bien?
Oui, mais il y a beaucoup d'écho là. Où est-ce que vous êtes? Sur quelle planète êtes-vous?
Je suis toujours sur la planète Terre. Est-ce que ça passe toujours avec de l'écho?
Oui, il y a toujours de l'écho, oui, oui, oui. Et vous êtes sur votre portable ou bien peut-être
oui,
la radio est allumée? Ah, là c'est mieux.
Okay.
Oui. Alors, parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et cette émission sera retransmise dans certains pays, donc il faut que la qualité du son soit impeccable. Vous comprenez un peu.
Très bien.
Ouais, ouais. Alors, merci d'être des nôtres. J'espère que vous n'êtes pas au bureau comme notre dernier invité. Alors, vous bossez fort. Comment s'annonce ce prochain forum? Vous êtes très actif d'ailleurs, hein, depuis quelques années. Là, je vois que la Fondation Sylvanie Lindor a le vent dans les voiles, comme on dit. Hein.
Oui, nous sommes très préoccupés. Ça suffit pour la mission, parce que nous voulons juste nous assurer que nos jeunes sont toujours actifs, parce que à toutes les activités qu'on met en pied, c'est juste pour nous assurer que les jeunes sont avec nous toujours, que nous savons exactement ce qui se passe dans leur vie et c'est exactement, nous essayons de créer quelque chose d'ici chaque mois pour nous assurer la qualité qu'on veut leur donner. C'est juste pour cette raison.
Quel est le profil de ces jeunes que vous réunissez à dans vos activités?
Nous avons un profil très varié jusqu'à présent parce que nous avons des jeunes, entre 10 dans les 21-22 mm-hmm. et plus, parce que des jeunes universitaires et aussi des jeunes qui sont encore à l'école. Beaucoup de jeunes dans les environs de Toronto.
Et ce sont des jeunes qui viennent d'arriver ou qui sont établis avec leur famille depuis très longtemps?
C'est varié. Nous avons des jeunes qui viennent d'arriver et aussi des jeunes qui sont nés ici à Toronto. Mmh. Et aussi des jeunes qui étaient nés à Montréal et qui viennent d'habiter à Toronto. Mmh. C'est beaucoup.
Alors, le thème de votre prochain forum a prévu le 22 février à Toronto. Parlez-nous un petit peu justement de ce thème. Parlons d'entrepreneuriat, du e-commerce et de leadership à la séance de Mathieu Dacosta. Qui, pourquoi, pour qui?
Le monde s'évolue. Si on voit exactement ce qui se passe aujourd'hui, c'est très, très différent de ce que le monde était quelques années de cela. Maintenant, on voit que l'entrepreneuriat prend une grande place dans le monde. Et on veut que les jeunes, nos jeunes, sont habitués et à se préparer pour se mettre dans le monde et exactement comme entrepreneur. Et pour savoir ce que est l'entrepreneuriat et être disponible pour devenir un entrepreneur. Et eux-mêmes, les jeunes doivent connaître ce qui se passe dans le monde. Et si on voit exactement maintenant le commerce, c'est pas juste aller dans un magasin, comme par exemple aller à Walmart pour acheter quelque chose. Nous avons maintenant un monde comme Amazon, nous avons des mondes comme Alipay, Alibaba, toutes ces choses-là, ce sont des choses électroniques, des choses en ligne. Et aussi, avec ce type de métier qui arrive, et on voit qu'il y a beaucoup de choses qui s'associent, comme la fraude et beaucoup de choses. On veut juste avoir une opportunité de préparer les jeunes pour les faire identifier tout ce qui est possible. Et parce que l'e-commerce, c'est très bon, mais c'est très dangereux aussi. Parce que quand on regarde les nouvelles, on voit exactement beaucoup de choses qui se passent avec les enfants, les petits jeunes, et des fois, en jouant avec leur téléphone, on entend les nouvelles, ce qui se passe, ils achètent quelque chose en ligne sans le savoir, même quand ils jouent en ligne, des choses comme ça. On veut prendre quelques minutes pour discuter avec nos jeunes parents, pour savoir exactement ce qui se passe. Premièrement. Deuxièmement, on veut juste que les jeunes soient en mesure de diffuser leurs idées, parce qu'on parle beaucoup avec des jeunes qui ont beaucoup d'idées pour faire des développements et dans plusieurs domaines. Par exemple, des domaines électroniques et des jeunes qui ont créé des petits projets, on voit, et ils peuvent programmer beaucoup de choses que nous, quand j'étais à leur âge, que j'avais aucune idée. Parce qu'on veut juste trouver un moyen pour encadrer ces jeunes avec des personnes qui évoluent maintenant dans le monde de l'entrepreneuriat. On veut juste essayer de mettre ces jeunes en contact avec des entrepreneurs déjà qui évoluent dans le monde de l'e-commerce et dans le monde commercial et pratique. Et ensuite, on va aussi profiter pour discuter avec les jeunes au sujet de Mois des Noirs, aussi de parler au sujet de Mathieu D'Acosta. Probablement, il y a beaucoup de jeunes en ce moment qui disent, mais qui est Mathieu D'Acosta? Pourquoi choisir le nom de Mathieu D'Acosta? On a profité de toutes ces choses pour délancer maintenant et utiliser le nom de Mathieu D'Acosta pour parler de ce projet, pour aider les jeunes à savoir exactement ce qu'est l'entrepreneuriat.
Il était... Je rappelle, madame, monsieur, Mathieu D'Acosta, comme un Africain noir ayant servi en tant qu'homme libre d'interprète pour des commerçants et des explorateurs français et hollandais au début du XVIIe siècle. Alors, il y aura des discussions, des panélistes. Les gens peuvent aller d'ailleurs sur notre site pour avoir tous les détails sur la programmation complète. Le temps passe, malheureusement. C'est le 22 février. À l'hôtel de ville du centre-ville de Toronto, c'est l'hôtel de ville de Toronto, à 100 rue Queen West, salle comité 1. Et pour plus d'informations, madame, monsieur, je vous invite à téléphoner le 647-456-1966. Je répète, 647-456-1966. Ou encore, vous pouvez aller visiter le site web, la Fondation Sylvanie Lindor, pour avoir tous les renseignements. Et brièvement, les panélistes, comment vous les avez choisis?
On a choisi les panélistes suivant au domaine le plus important pour les activités de nos jours. Et on a discuté avec des jeunes les plus proches de nous pour savoir exactement qu'est-ce qu'ils ont besoin au moment et de ce... En ce moment, pour voir où est-ce qu'on peut les aider. Après la discussion avec les jeunes, on a décidé de choisir les jeunes qu'ils ont demandé le plus dans les domaines qu'ils veulent évoluer. On a choisi les jeunes et on a choisi les panélistes directement avec les jeunes.
Oui. Alors, les gens peuvent aller sur notre site. Hein, des fois, c'est plus simple. Potpourrichaud.com, www.potpourrichaud.com. Et là, vous allez avoir le lien sur l'activité du 22 février. Parlons d'entrepreneuriat, de e-commerce et de leadership à la séance Mathieu Dacosta, organisée par la Fondation Sylvanie Lindor le 22 février dès midi jusqu'à 18h à l'Hôtel de Ville de Toronto. C'est une très, très bonne occasion, madame, monsieur. Vous n'êtes pas obligé d'être africain, haïtien, d'ascendance africaine. C'est ouvert pour tout le monde. J'espère que les gens seront nombreux d'aller assister à cette séance qui s'annonce très, très inspirante et intéressante. Ah, merci beaucoup, cher ami, et bien le bonjour à tous vos amis, vos collègues. André Venor, qui est directeur de développement et des opérations de la Fondation Sylvanie Lindor, je vous remercie beaucoup.
Merci, je vous attends tous. Merci, bonne journée.
Voilà, tout le monde vous applaudit. Au revoir.
Au revoir.
Pour une chose, CUT-FM, l'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde. Van Gogh, African Orchestra, c'est un groupe très torontois, madame, monsieur, hein. Et c'est grâce à nos amis à CUT 89,5 FM, nous avons rassemblé tous ces talents africains venant du Bénin, du Congo, de Madagascar, du Sénégal. Et oui, ils vivent ici. Et souvent, ils n'arrivent pas à gagner leur pain. Et donc, on a créé un consortium et puis on a créé un orchestre. Oka Van Gogh, d'ailleurs ils remportent beaucoup de prix depuis quelques temps là, j'ai vu quelque part sur Facebook qu'ils avaient remporté un autre prix, bravo, bravo, African Orchestra, et que vous pouvez entendre ici à partir de 15h, la directrice, l'organisatrice qui organise plein de concerts à CUTFM mais aussi à l'Alliance Française de Toronto et à Harbourfront de Bakuti Music, Madine McElty, madame, monsieur, bravo, bravo pour tout le travail que vous faites, merci d'avoir était là. Et aujourd'hui, c'est le SOCAN, on est obligé de payer les droits d'auteur de nos artistes canadiens, de nos artistes torontois. Et cela fait plaisir de jouer ce morceau Dans un instant, nous allons accueillir une grande dame qui aime aussi peut-être la culture africaine. Elle est professeure à l'Université de Toronto, campus de Mississauga. Et je vous rappelle rapidement, du 12 au 17 février, c'est le cinéma africain à l'honneur avec en vedette le réalisateur Spike Lee, président du jury du Festival de Cannes. Il sera à Toronto dans le cadre du Toronto Black Film Festival. Et nous avons des billets pour vous, si cela vous intéresse. Accès. Et nous remercions beaucoup Global News, mais aussi TD Bank qui collabore à cette exceptionnelle présentation. On me parle en même temps là. Alors, dans un instant, madame, monsieur, nous allons voir ce que font nos élèves à l'Université de Toronto, surtout le campus de Mississauga. Et puis, un 7 février 1986, décédé à Dakar, l'un des grands savants du monde, Cheikh Anta Diop, physicien et philosophe, historien, anthropologue, panafricaniste, engagé. Il a ouvert la voie de la reconstruction de la mémoire collective des peuples africains. Eh oui, que font nos jeunes dans nos universités? Eh oui, dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, nous avons professeur Caroline Lebrec qui est avec nous, qui collabore régulièrement à cette émission. Je vous salue chaudement sur les plages des Antilles, professeur. Comment allez-vous?
Mais je vais très bien. Moi, je suis dans la neige ontarienne, pas sur les plages des Antilles, mais c'est comme ça, c'est la diversité.
Ah ben oui, il faut venir nous voir. Il se passe beaucoup de choses. Vous savez qu'on, il y a tous ces, comment ça s'appelle, ces masques de parade, de manifestation, et ça s'en va juste en crescendo jusqu'au jour de Mardi Gras. C'est avant mercredi des cendres. C'est très traditionnel de voir toutes ces masques, ces danses, ces carnavals, que ce soit Saint-Martin, Saint-Barth, pas tellement, mais Guadeloupe et Martinique, super, super, super.
Excellent.
Oui. D'ailleurs, on a des artistes, des écrivains, on a des photographes qui veulent venir à Toronto. Alors, on est en train de concocter, peut-être dans le cadre du mois de la francophonie, on aura des voix chaudes des Antilles. Pourquoi pas? Ça fait affaire changement.
Oui, très bien.
Ça va bien à l'école depuis la rentrée. Alors, je vois que vous allez partir en voyage à Montréal pour aller découvrir le mois de l'histoire des Noirs. Parlez-nous un petit peu de cette activité.
Oui, c'est les étudiants qui participent au club francophone de l'Université de Toronto au Mississauga du département d'études langagières. Oui. Nous partons 3 jours à Montréal pendant la semaine de lecture et nous avons un itinéraire précis qui intègre...
Ah, c'est la semaine de lecture. Moi, je pensais qu'ils allaient au Mexique ou en Floride parce que il y a beaucoup d'étudiants qui préfèrent aller vers le sud.
Eh bien, certains sont ravis de venir à Montréal, en fait. Ce sont principalement des étudiants de première année que nous avons dans le groupe qui va partir. Et j'ai l'impression que c'est la première fois qu'ils vont aller à Montréal. Uh-huh. Donc, ils sont ravis. Et on a inclus la visite du Musée des Beaux-Arts, dans lequel il y a des conférences dans le cadre de l'histoire des Noirs, mais aussi des expositions de l'art du tout-monde, des momies égyptiennes, donc plusieurs choses... qu'ils vont pouvoir regarder au Musée des Beaux-Arts. Et puis, il y a l'après-midi du 21 février, que nous avons réservé pour la table ronde, une table ronde organisée à Montréal dans le cadre des célébrations du mois de l'histoire des Noirs sur les enjeux de la communauté noire francophone au Québec.
Mais alors, je rappelle aux gens que cette année, c'est spécial, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une décennie internationale qui a démarré en 2015, qui se termine en 2020, sur les personnes d'ascendance africaine décrétées par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Et c'est quand même un élément important, je pense, dans l'apprentissage d'une langue, d'une culture, mais aussi de comprendre cette diversité importante et la contribution d'un peuple. Et ici, on parle des Noirs. D'ailleurs, nous avons eu ce professeur, philosophe, écrivain, auteur d'un dernier livre sur la contribution des esclaves noirs au Canada, oui. Docteur Amadouba, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Mais ce sont des choses très encore méconnues, malheureusement, au niveau universitaire et aussi pour monsieur, madame, tout le monde au Canada.
Bien sûr, il faut en parler. Moi, j'enseigne un cours d'histoire de la langue française cette année. Et dans le cadre de l'histoire des Noirs, le cours que je donne le lundi, la semaine dernière, j'ai inclus, on en était au XVIIe siècle et c'est le moment où la France est venue s'installer au Canada en créant la Nouvelle-France avec beaucoup de difficultés, mais petit à petit. Et c'est aussi pour la communauté noire, la communauté autochtone bien sûr, mais c'est encore un autre problème, mais la communauté noire, c'est aussi le début de l'esclavage qui s'est installé sur les terres canadiennes. Donc on a fait toute une activité là-dessus, intégrée dans le cours la semaine dernière, et ça a beaucoup plu aux étudiants, bien évidemment.
Oui. Alors, je vous souhaite, donc c'est quand le départ? Bon, moi je ne pourrais pas y participer parce que je ne suis pas étudiant.
Mais vous êtes toujours le bienvenu.
Je sais, je plaisante. Alors, c'est pour quand, la date
c'est
de départ?
C'est du 19 février au 22 février.
Oui, alors 19 au 22 février, mm-hmm. Départ de Toronto à Montréal. Est-ce qu'il y a d'autres activités culturelles? Est-ce que ces jeunes, d'ailleurs, il y a une diversité incroyable hein, à votre campus de Mississauga,
oui.
Partout, les autres campus aussi, mais Mississauga, oui. C'est spécial, hein?
Oui, tout à fait.
Ouais.
Ben, c'est très divers encore, les étudiants qui sont inscrits dans ce voyage, comme toujours.
Et bravo, parce que vous faites un travail vraiment extraordinaire, c'est-à-dire donner la chance et la voix aussi à ces jeunes qui étudient le français dans vos cours. Vous êtes parmi ces rares professeurs qu'on voit et qui ont cette passion d'organiser des activités. Vous avez fait une soirée de crêpes, là, une séance de crêpes pour la Chandeleur, je pense. C'était
pas... Oui, tout à fait. Il y a quelques semaines aussi, c'était la galette pour l'Épiphanie avec une ouverture à la communauté LGBTQ de plus, parce que l'Épiphanie, on choisit un roi et une reine, mais on peut très bien choisir un partenaire, on n'a pas besoin d'être
bien
honoré.
Bien sûr.
Donc nous avons fait cela, et en fait, avec un record de participation dans nos cafés rencontres, entre 15 et 20 étudiants, alors que d'habitude, on tourne entre 5 et 10.
Donc, et je suis convaincu, qu'il va y avoir encore des surprises dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, n'est-ce pas? Alors, je vous remercie infiniment, je remercie RFI, DJ Devera, je remercie Docteur Amadou Ba, Benoît Sanga à Québec, André Venord à Toronto et bien sûr notre amie Caroline Lebrec, professeure à l'Université de Toronto, le campus de Mississauga. Merci beaucoup, chère Caroline. On se reparle très prochainement.
Oui, merci à vous.
Et bonne route, bon voyage pour Montréal.
Merci, au revoir.
À dimanche prochain, madame.
On vit dans la galère, donc comment faire dans cette vie pour calmer nos nerfs? Mes chers, je vous le dis, la vie coûte cher pour le bien de sa chair, il faut être riche.